Vous écoutez
RMC.
8h sur RMC et RMC Story. Très belle journée à tous.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Les agriculteurs sont entrés dans Paris ce matin et ils expriment leur colère malgré les interdictions. Ils sont à la Tour Eiffel, au pied de l'Arc de Triomphe et sur l'autoroute A13 également. On va tout vous détailler dans un instant. Deux questions également dans l'actualité ce matin. Aura-t-on un budget en janvier? Les députés se replongent dedans à l'Assemblée. Et jusqu'où ira Donald Trump? Il propose désormais d'acheter le Groenland.
Les agriculteurs expriment leur colère ce matin dans Paris.
Oui, les premiers tracteurs sont entrés vers 5h du matin dans la capitale à l'appel de la coordination rurale. Ils sont une centaine en région parisienne, une vingtaine dans Paris, c'est ce que vient de dire le ministère de l'Intérieur, au pied donc de la Tour Eiffel, à la porte d'Orléans, ou comme vous allez l'entendre, autour de l'Arc de Triomphe avec Émilien, céréalier venu de Charente-Maritime pour dénoncer la gestion de la maladie bovine et le Mercosur aussi, dont la signature est annoncée demain à Bruxelles.
On est tellement blasé que je pense qu'à force ça finira mal. Quoi. Quand on voit tous nos voisins, nos amis qui se suicident les uns après les autres, j'ai peur que ça finisse très mal, que ça finisse en drame de toute façon, parce que il y a beaucoup de personnes qui n'ont plus rien à perdre. Des mecs comme ça, on fait 600 km, 700, 800 km en tracteur. Rendez-vous compte quand même de la situation. Allez, on est au bout, enfin, clairement au bout. Mais on a l'impression que ça servira peut-être pas. Faudrait peut-être casser pour se faire plus.
Alors avec la présence des tracteurs, une partie de l'A13 est coupée, l'autoroute entre Saint-Cloud et le périphérique, c'est l'entrée dans la capitale. Guillaume Bier, vous êtes le chef du service police-justice à RMC. On répétait pourtant depuis des jours que des arrêtés avaient été pris pour empêcher les agriculteurs d'entrer dans Paris. On se demande comment ils ont fait.
Effectivement, mais en tout cas, le constat est clair. Ils sont parvenus à déjouer le dispositif qui avait été mis en place par les autorités. Des groupes de tracteurs dont certains ont forcé les barrages de gendarmerie qui avaient été installés assez loin de la capitale en prenant des risques totalement inconsidérés, souligne ce matin le ministère de l'Intérieur. Ils sont arrivés d'un peu partout dans la nuit et n'ont pas pu être stoppés. Il y avait pourtant une trentaine d'unités de forces mobiles, compagnie de CRS et escadrons de gendarmes mobiles qui avaient été mobilisés, notamment pour protéger des points stratégiques comme le marché international de Rungis par exemple. Mais ce dispositif était donc éparpillé en région parisienne et les agriculteurs sont parvenus à le contourner. Et donc au final, une centaine de tracteurs sont actuellement bloqués aux portes de Paris selon le ministère. Une vingtaine sont dans la capitale, autour de l'Arc de Triomphe et au pied de la Tour Eiffel.
Et je vous signale aussi qu'un dépôt de carburant, celui de Bassins, s'est bloqué depuis hier soir près de Bordeaux par une quarantaine d'engins, également à l'appel de la coordination rurale.
8h03 sur RMC et on reparle budget ce matin.
Oui, après l'échec, vous savez, des débats en fin d'année dernière, le gouvernement assure qu'un budget sera trouvé en janvier. À l'instant, la ministre Amélie Montchalin n'exclut, dit-elle, rien qui puisse donner un budget à la fin aux Français. Voilà pour les déclarations. Les discussions reprennent aujourd'hui en commission des finances à l'Assemblée. Cyprien Pézeril, il sera question de quoi ?
Augmenter les recettes ou diminuer les dépenses, l'essentiel n'est toujours pas tranché. Et seul l'objectif de contenir le déficit à 5% du PIB fait consensus entre LR, PS, macronistes et le gouvernement. La droite prône un coup de rabot et promet 6 milliards d'économies quand les socialistes estiment qu'il faut 12 à 13 milliards de recettes supplémentaires avec une série d'amendements sur les très hauts patrimoines ou sur les bénéfices des grandes entreprises. De quoi revenir notamment, espère le PS, sur la suppression de 4000 postes de profs. Entre réunions officielles et tractations officieuses, les discussions s'éternisent. Il faut qu'on passe à autre chose, souffle un chef de parti qui pourrait se montrer plus conciliant. D'autant qu'au gouvernement, on ne dit plus complètement non au 49-3. Tout le monde a en tête qu'il faut un outil pour se sortir du bourbier, reconnaît la ministre du budget.
Et puisqu'on parle de bourbier, tiens, des opérations de salage et même de déneigement sont en cours sur les routes du Massif central. Vous nous l'avez signalé très tôt ce matin au 32-16 dans les secteurs d'Aurillac, du Puy-en-Velay, de Saint-Etienne, sur l'A75 aussi au niveau du viaduc de Millau. Les stations de ski sont ravies dans les Alpes. Et c'est en attendant la tempête Goretti qui va balayer le quart nord-ouest de la France, placée en vigilance orange pour la nuit prochaine. La Manche, le département de la Manche sera même en vigilance rouge, Géraldine de Maury. On parle d'un phénomène de bombe météorologique.
Exactement, on parle de bombe météorologique parce que la pression atmosphérique va chuter brutalement. On va perdre presque 40 hectopascales en moins de 24 heures, ce qui est énorme. C'est notamment parce que la dépression est placée très près du jet, ce qui va l'alimenter. Et c'est ce qui va générer ces vents tempétueux. Le cœur de la dépression va vraiment passer sur la Manche, vraiment entre l'Angleterre et la France. C'est au sud de la dépression que les vents seront les plus violents, jusqu'à 160 km/h sur le littoral du département de la Manche. 130 dans ces terres, en particulier entre 21h ce soir et 3h demain matin, ce sera vraiment le pic. Sur le reste du quart nord-ouest, les rafales atteindront les 120 km/h près du littoral. 100 dans les terres, y compris dans les rues de Paris. On attend des gros dégâts, notamment des toitures arrachées, des vitres brisées par les dégâts, des arbres arrachés. Donc c'est vraiment important de vous mettre en sécurité pour la nuit. Attention au risque de submersion également, en particulier au moment de la pleine mer la nuit prochaine. Le calme sera de retour demain matin.
Le continent américain géré par des Américains, c'est une vieille doctrine aux États-Unis et Donald Trump l'adapte à sa sauce. On le voit en ce moment avec la capture de Nicolas Maduro au Venezuela, la traque et la saisie dans l'Atlantique d'un navire russe accusé de transporter du pétrole vénézuélien. Et des vues de plus en plus insistantes sur le Groenland. Alors officiellement, c'est pour des raisons sécuritaires. Officieusement, c'est plutôt pour mettre la main sur les ressources énergétiques au Groenland, territoire qui est danois. Antoine Hollard, vous êtes aux États-Unis pour RMC. Il menaçait d'utiliser l'armée. Et bien maintenant, il propose des sous.
Oui, Donald Trump veut acheter le Groenland. C'est la piste, en tout cas, qui est privilégiée par le président, selon sa porte-parole, qui précise néanmoins que toutes les options restent sur la table, y compris le recours à la force. Alors à ce stade, les États-Unis ne prévoient pas de déployer des soldats sur l'île pour la saisir. Mais cette menace d'une potentielle intervention militaire, c'est clairement une façon d'intimider le Danemark pour lui tordre le bras et le forcer à négocier. La semaine prochaine, d'ailleurs, Marco Rubio, le chef de la diplomatie, doit rencontrer des responsables danois. Trump, quoi qu'il en soit, est déterminé et il faut prendre au sérieux ces menaces, notamment parce que depuis l'attaque contre le Venezuela, il se sent poussé des ailes, convaincu plus que jamais que la force l'emporte sur le droit international.
Et qui l'emportera en football ce soir, 19h? On vivra ça sur RMC entre Paris et Marseille, dans le Trophée des Champions. C'est un des matchs les plus chauds, normalement, du foot français. Mais alors là, il va se jouer au Koweït avec presque aucun supporter des deux camps, Florent Germain.
Oui, trop loin, trop cher, trop absurde. Cette finale au Koweït a donc été boycottée par les habituels groupes de supporters du PSG et de l'OM. Le capitaine parisien Marquinhos a tout de même bon espoir que Koweït City et son stade de 55 000 places soient acquis à la cause du PSG.
Quand on a sorti de l'hôtel, quand on est arrivé, on a vu qu'il y a beaucoup de supporters de Paris Saint-Germain. Alors je pense que ce stade il va être plein avec supporters de Paris.
Dans ce match des tribunes, une délégation de supporters marseillais, l'OM Fan Club de Dubaï, va donner de la voix. Promet Benjamin.
Dès qu'on a su que c'était au Koweït, on a regardé les billets d'avion tout de suite. On est tous d'anciens winners, d'anciens MTP ou d'anciens Yankees. C'est l'OM dans le sang pour tous. Il y a les tambours, il y a les tifos. Vous pouvez compter sur nous, il y aura du bruit.
L'entraîneur Roberto De Zerbi pense, lui, aux fans de l'OM restés à Marseille et veut leur ramener le trophée.
On est loin d'eux, mais on connaît l'histoire prestigieuse de l'OM et on veut écrire une page moderne. On va tout donner. Quand on rentrera à Marseille, on pourra regarder nos supporters dans les yeux et leur dire qu'on a fait le maximum.
Et d'ailleurs, un voyage retour en avion de quasiment 6 heures, cela passe toujours plus vite avec le trophée dans les bagages.
Bon, et puis on est à un mois maintenant des Jeux Olympiques de Milan-Cortina. Bonne nouvelle, Clément Noël qui a remporté hier soir le slalom de Madonna di Campiglio en Italie, c'est du ski alpin. Paco Rassa termine 3e, cette bonne augure à un mois des Jeux.
C'était le journal de Quentin Vinet.